Je viens de passer 10 minutes sur TikTok. Un type m'a dit qu'on allait tous mourir dans 10 ans. Un autre type voulait me convaincre d'acheter un nouvel appareil photo à 300 euros. Une autre vidéo m'a montré comment gagner 10 000 dollars par mois en l'espace de 10 minutes. Nous, les humains, ne pouvons pas continuer comme ça avec toute cette quantité d'informations que nous avons. Nous n'étions pas censés savoir tout ça. Cela nous fait remettre en question tout ce que nous faisons dans notre vie. Les médias sociaux renforcent nos insécurités et nous poussent à remettre en question notre propre vérité.
Toutes les plateformes, y compris celles-ci, dénigrent les sources d'informations fiables, ce qui rend plus difficile l'obtention d'informations précises et vérifiées. Cela n'arrive pas qu'aux personnes que vous détestez. Cela vous arrive aussi.
On sait tous qu'on devient de plus en plus bête, n'est-ce pas? Vous le ressentez, je le ressens, nous le ressentons tous. Si l'on observe la nature des nouvelles, la proportion de mauvaises nouvelles et l'impact que cela a sur votre cerveau sont disproportionnés.
Faire défiler les médias sociaux et voir quelqu'un en recevoir deux fois en une semaine n'est pas normal.
Quelqu'un d'autre se sent-il complètement épuisé par son fil d'actualité ces jours-ci? Parce que l'expérience moderne des médias sociaux n'est rien de moins qu'un coup de fouet incessant passant des mèmes de chat au gouvernement qui s'effondre. Mais la raison pour laquelle ce monde semble si dystopique est que nous avons depuis longtemps dépassé l'ère Internet de MySpace et Farmville et que nous sommes maintenant entrés dans ce qu'on appelle les médias sociaux de dernière génération, où les plateformes qui promettaient autrefois connexion et créativité sont devenues dominées par le chaos. Nous devons désormais naviguer sur ces plateformes comme des zones de guerre, en restant sur nos gardes, en évitant constamment des choses comme les quiz de comparaison d'IA qui étaient au début aussi faciles qu'un jeu d'enfant, mais qui nous laissent désormais deviner la réalité. La lassitude des plateformes nous ronge tous à cause du bruit sans fin du flot constant de notifications, d'opinions et de tendances, qui laisse les gens insensibles au monde. Et le sujet principal de ce soir, c'est que je ne pense pas que nous étions faits pour vivre comme ça. Pendant ce temps, les nuances dans notre culture ont presque disparu sous le poids écrasant de la colère et de la polarisation qui dominent nos fils d'actualité. En bref, les médias sociaux ne nous servent plus, nous ses utilisateurs. Au contraire, ils nous surstimulent, nous désinforme et nous épuise. C'est donc ce que nous allons aborder aujourd'hui. Ce que cette nouvelle forme de médias sociaux nous fait subir et, par conséquent, pourquoi nous ne semblons pas pouvoir détourner le regard. Donc, pour commencer, l'un des plus gros problèmes auxquels nous sommes confrontés dans les médias sociaux de dernière génération est de gérer l'ère de l'abondance d'informations. Car si nous connaissons tous les avantages d'avoir le savoir du monde à portée de main, nous parlons rarement des inconvénients. L'un d'eux est que nos cerveaux sont submergés. Je pense que les médias sociaux sont incroyables. Je pense que nos téléphones sont incroyables. Ils nous ont vraiment connectés de plus d'une façon. Ils ont créé des groupes d'amis. Ils nous ont donné de nouvelles connaissances et informations sur des choses. Nouvelle musique, nouvelles idées, nouvelles communautés, blablabla. C'est génial. Cependant, je pense presque aux médias sociaux et à la quantité d'informations dont nous disposons maintenant, alors que vous essayez de fourrer encore plus de vêtements dans une valise déjà pleine qui ne se ferme pas et ne fonctionne pas. C'est trop. Vous n'arrivez pas à déplacer votre valise et vous n'arrivez tout simplement pas à bouger vous-même parce qu'il se passe trop de choses dans votre cerveau et vous avez déjà du mal à suivre le rythme. On estime que les humains traitent environ 74 gigaoctets d'informations chaque jour. Autrefois, 74 gigaoctets d'informations auraient été ce qu'une personne très instruite aurait consommé au cours de sa vie à travers des livres et des histoires. Aujourd'hui, nous avons rarement le luxe de nous informer à partir de livres. Au lieu de cela, nous sommes bombardés d'informations par le biais des fils d'actualité, des panneaux d'affichage, de la publicité 24h, 24 et 7J7, des stations de radio qui passent partout où nous allons et, bien sûr, de tout le défilement. Et comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas faits pour traiter autant d'informations en permanence. Pensez à l'époque où les gens vivaient dans des villages. Leur monde était aussi petit que les 50 personnes de leur communauté. Leurs problèmes comprenaient les conditions de travail, les ressources limitées, les conflits avec les voisins et la santé, et rien de plus. Et je ne dis pas que c'est nécessairement une meilleure façon de vivre, mais le fait est que nous devons toujours faire face à tous ces problèmes. Mais en plus de cela, l'économie de l'information remplit nos cerveaux de plus de stress. Car aujourd'hui, à moins de surveiller et de limiter intentionnellement notre temps d'écran, nous sommes inondés d'informations du lever au coucher du soleil. Nous nous réveillons, téléphone en main, en faisant défiler les notifications et les fils d'actualité, nous allons au travail où 90% des Américains utilisent Internet pour leur travail. Puis nous rentrons chez nous, nous nous détendons en faisant défiler un peu plus d'informations, peut-être en regardant une émission avec notre partenaire, puis nous passons probablement le reste de la nuit à faire défiler des informations. C'est la réalité pour beaucoup de gens, et toute cette stimulation mentale est épuisante. Mais il est intéressant de noter que malgré la quantité d'informations qui nous sont envoyées sous tous les angles, nous ne les assimilons pas forcément toutes. Paradoxalement, au lieu de devenir la génération la plus informée à ce jour, nous devenons une culture de compréhension superficielle et de pensée superficielle. Car lorsque nous lisons un titre d'actualité, combien d'entre nous vont lire l'article en entier? La plupart du temps, nous ne le faisons pas et passons simplement au contenu suivant qui attire notre attention. Ce que nous avons vraiment gagné au XXe siècle, ce n'est pas seulement l'accès à l'information, mais une nouvelle façon de la traiter. Ainsi, au lieu de lire tous les livres jamais écrits, nous nous fions aux moteurs de recherche pour des récapitulatifs rapides et des réponses courtes. J'essaie donc de comprendre ce qui se passe depuis un certain temps maintenant avec notre déclin dégoûtant et évident de l'intelligence en tant que société. Nous savons tous que nous devenons de plus en plus bêtes, n'est-ce pas? Vous le ressentez, je le ressens, nous le ressentons tous. Et puis j'ai lu ces lettres écrites par des jeunes de 17 ans à l'époque de la guerre de sécession. La façon dont les jeunes de 17 ans parlaient par rapport à la façon dont ils le font maintenant vous rendra émotif, car c'est tellement triste. C'est tellement triste. Notre vocabulaire est tellement sous-développé. Nous avons perdu la capacité de nous exprimer. Mais en plus, vivre une vie intellectuellement curieuse. D'un côté, nous avons à portée de main une mine d'informations que nos ancêtres auraient à peine pu imaginer. Des bibliothèques de données, des connaissances d'experts et des ressources éducatives sont accessibles d'un simple glissement ou clic. L'intelligence artificielle est prête à servir notre tuteur infatigable, en décomposant des concepts complexes et en offrant des expériences d'apprentissage personnalisées. Pourtant, alors que nous nous émerveillons devant ce monde apparemment idéal de connaissances infinies, une ombre se profile. Les outils mêmes qui promettent l'émancipation intellectuelle ont également le potentiel de nous endormir dans un état de consommation passive et irréfléchi. C'est un problème de surcharge numérique où nous consommons habituellement de grandes quantités de médias de mauvaise qualité et nous sommes devenus des grignoteurs informatifs plutôt que des mangeurs. Ce qui signifie que nous ne dépassons jamais les quelques premières bouchées pour vraiment plonger dans un sujet et en avoir une vue d'ensemble.
Je suis constamment en ligne, d'une manière différente et plus sophistiquée que tout le monde. Les gens disent, tu fais juste du scrolling de Doom, tu fais défiler pendant des heures, tu perds ton temps. C'est de la recherche. J'étudie, j'accumule des informations, je sais un peu tout. Vous parlez d'une personne au hasard, je la connais. Et si je ne la connais pas, je pourrais la découvrir. Je ferai des recherches, je trouverai un tweet au hasard qu'elle a fait, je trouverai une vidéo au hasard qu'elle a faite, et je saurai tout sur elle. J'ai vu toutes les vidéos YouTube, j'ai lu tous les tweets, j'ai vu toutes les publications Instagram, et j'ai vu tous les TikTok.
Ainsi, l'acte de lecture approfondie est en fait menacé aujourd'hui, car il est en déclin. Autrefois considéré comme une compétence fondamentale pour la croissance intellectuelle, il a été remplacé par la lecture rapide de résumés et d'extraits. Alors que TikTok, Instagram et X prennent le contrôle de nos vies, les informations de petite taille rendent difficile pour les utilisateurs de se concentrer sur des contenus plus longs et plus complexes. Regardez ma vidéo sur la dépendance aux écrans de dernière génération pour en savoir plus. Mais cela nous prive de notre capacité à lire des textes complexes et à avoir des pensées complexes. Les médias sociaux de dernière génération entraînent donc le démêlage de la pensée critique, que nous avons déchargé en 280 caractères ou en bribes de pensée de 60 secondes. En tant que scientifique de la santé créative, j'essaie de tirer cette sonnette d'alarme depuis des années. Car lorsque nous perdons notre capacité à penser de manière critique, à être créatif, à nous engager avec des nuances, de la profondeur et des connaissances, ce n'est pas seulement quelque chose de superficiel. Nous abandonnons littéralement notre pouvoir. En effet, même si la pensée créative, critique et profonde est un trait humain inné, c'est en fait ce qui nous rend humains, c'est aussi une compétence. C'est quelque chose que nous devons pratiquer régulièrement et continuer à montrer avec le temps. Mais lorsque les seules personnes qui le font sont les élites, alors penser devient littéralement un privilège. Les coûts d'opportunité de la vie dans ce monde des médias sociaux sont énormes. La lecture approfondie, la culture de l'intériorité et de la réflexion qui l'accompagne, ainsi que les possibilités de conversation avec les autres dans le cadre de cette réflexion plus profonde deviennent impossibles pour trop de personnes. Il n'y a que le clignotement constant et le saut d'un mème divertissant à un segment vidéo, et d'un influenceur d'une notification à l'autre dans un tourbillon de stimuli accélérés et addictifs. Mais il y a encore plus de conséquences à cette surcharge d'informations que le fait d'être forcé à faire plusieurs choses à la fois. On nous a vendu l'idée que pour être productif, il fallait maîtriser l'art du multitâche. Mais il s'avère que le multitâche n'est pas vraiment quelque chose que les humains peuvent faire, et cela peut en fait diminuer notre efficacité. L'étude scientifique du multitâche au cours des dernières décennies a révélé des principes importants sur les opérations et les limites de traitement de notre esprit et de notre cerveau. Une découverte essentielle qui en ressort est que nous gonflons notre capacité perçue à faire plusieurs choses à la fois. Il y a peu de corrélation avec notre capacité réelle. En fait, le multitâche est presque toujours un terme impropre, car l'esprit et le cerveau humain n'ont pas l'architecture nécessaire pour effectuer deux tâches ou plus simultanément. Donc, à ma grande surprise, et j'imagine à la vôtre aussi, nous ne sommes pas des ordinateurs, car nos capacités mentales sont limitées et nous sommes censés fonctionner de manière concentrée. Même si vous voulez croire que vous pouvez suivre six formes de médias à la fois, Ce n'est pas comme ça que fonctionne le cerveau. Une étude a révélé que seulement 2,5% des personnes sont capables d'effectuer plusieurs tâches à la fois efficacement. Pour le reste d'entre nous, nos tentatives de faire plusieurs activités à la fois ne le sont pas vraiment. Malheureusement, écouter un podcast pendant que vous travaillez vous aide à passer le temps, mais cela ne fait que distraire le cerveau, car il est sollicité dans deux directions différentes. Et oui, je me sens vraiment interpellée par cela, car je n'ai jamais connu que la consommation de médias en travaillant, ce qui est une chose étrange à laquelle penser. Mais dans notre monde des médias sociaux, ce mode de fonctionnement semble si normal que nous ne nous demandons jamais si le fait de mettre une vidéo YouTube en arrière-plan nous ferait faire plus d'erreurs. Cette étude a révélé que la distraction technologique, le simple fait de recevoir des emails et des appels, entraînait une baisse du QI du travailleur de 10 points en moyenne. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce phénomène, à court terme, cela représente deux fois plus de dégâts sur votre QI que si vous fumiez du cannabis. Cela suggère donc qu'en termes de capacité à travailler, vous feriez mieux de rester défoncé à votre bureau plutôt que de consulter vos textos et vos messages Facebook. Tout cela pour dire que les derniers médias sociaux nous ont poussés à un point où l'information sans fin fait à peu près le contraire de l'information et affaiblit plutôt notre concentration et rend plus difficile de s'engager profondément dans quoi que ce soit. Vous savez ce qui est également extrêmement accablant ? Les courses et la planification des repas. Si vous me suivez depuis l'époque où j'étais une mère influenceuse, vous savez que je déteste cuisiner et que j'aime aussi la nourriture saine. Et ces deux choses sont assez difficiles à gérer ensemble. Mais c'est pourquoi je suis ravie de partager avec vous le sponsor du jour, HungryRoot. Si vous n'avez jamais entendu parler de HungryRoot auparavant, ils simplifient les courses, la planification et la cuisine, car ils agissent en quelque sorte comme un assistant personnel mêlé à un nutritionniste. Ils permettent de manger très facilement des aliments nutritifs et de qualité pour toute la famille, quel que soit le régime alimentaire ou les objectifs de santé, sans sirop de maïs à haute teneur en fructose, sans édulcorants artificiels ni conservateurs dans les aliments HungryRoot. Il vous suffit de remplir leur questionnaire sur vos objectifs et vos préférences alimentaires, et ils remplissent votre panier de recommandations personnalisées qui deviennent de plus en plus intelligentes au fur et à mesure qu'ils en apprennent davantage sur vos goûts. Ils s'occupent de la planification des repas hebdomadaires en plus de vos courses. Vous n'avez donc pas à courir partout pendant la semaine pour remplir votre garde-manger, car ils ont des choses comme des collations pour enfants, des bonbons, des plats prêts à manger et même des compléments alimentaires. Avec plus de 15 000 recettes expédiées chaque semaine, il y en a pour tous les goûts et toutes les préférences nutritionnelles. Ma boîte est arrivée juste au moment où nous rentrions de vacances et où nous étions sur le point de commencer l'école à la maison avec Rook. Autant dire que nous avions beaucoup de choses à faire et que je ne voulais pas penser au repas que nous allions manger cette semaine-là. HungryRoot est donc vraiment venu à ma rescousse. Ce que j'aime personnellement chez HungryRoot, c'est que vous pouvez indiquer vos préférences alimentaires, qu'il s'agisse de plats sans gluten, sans produits laitiers ou riches en protéines, comme moi. Mais ce qui est également très important pour moi, c'est que la plupart des repas sont préparés en moins de 15 minutes, ce qui est moins de temps qu'il n'en faut pour se faire livrer ou emporter. Cela m'a pris 6 minutes à préparer. Incroyable! Et en plus de tout cela, comme ils planifient chaque repas, il n'y a pas de gaspillage alimentaire et donc d'économie. Alors, si cela vous intéresse, profitez de cette offre exclusive. Pendant une durée limitée, vous bénéficiez de 40% de réduction sur votre première boîte, ainsi que d'un article gratuit à vie dans chaque boîte. Cliquez simplement sur le lien dans la description ou rendez-vous sur hungry.com et utilisez le code Ashley Embers. Cela représente 40% de réduction sur votre première boîte et un article gratuit à vie de votre choix sur hungry.com avec le code Ashley Embers. Vous pouvez sans doute deviner l'autre problème qui découle de cette surabondance d'informations. Cela étant dit, bien sûr, une grande partie de ces informations sont fausses. Nous vivons une épidémie de désinformation, et les gens ne savent pas comment y faire face, car elle évolue plus vite que nous ne pouvons suivre. Pour la toute première fois, nous devons essayer de déterminer si une vidéo de lapin sautant sur un trampoline est réelle ou non. Quelle étrange époque pour être en vie. Mais c'est la réalité des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. L'époque où les médias grand public dominaient notre vision du monde est révolue depuis longtemps. Aujourd'hui, les médias sociaux prennent le relais. Car si les médias sociaux n'ont jamais été censés être notre source d'information, ils étaient manifestement destinés à être sociaux. Ils se sont transformés bien au-delà de cela pour devenir quelque chose de franchement méconnaissable. Aujourd'hui, la plupart des gens ne s'informent plus dans les journaux télévisés ou les émissions de télévision. Non, ils les obtiennent via leurs fils d'actualité sociaux. Dans l'écosystème actuel, hyper concurrentiel et incessant de diffusion d'informations, un peu plus de la moitié des adultes américains déclarent s'informer souvent ou parfois via les médias sociaux. Le problème ici, c'est que ces plateformes de médias sociaux ne sont certainement pas réputées pour être des sources fiables de vérité, car elles ne s'en soucient même pas. Pour être clair, cela ne veut pas dire que les médias d'information ont toujours été un phare de vérité indéniable, car il y a toujours eu une déformation des récits pour les adapter à des programmes spécifiques. Mais au moins, il y a eu une tentative d'honnêteté, car les médias grand public devaient maintenir le niveau d'un journalisme fiable pour que les téléspectateurs restent à l'écoute. La principale différence entre les médias traditionnels et les médias sociaux réside dans la responsabilité. Les médias grand public disposent généralement de garde-fous pour empêcher les fausses allégations, car ils sont également dans le domaine de l'audience. Leur réputation de crédibilité les a quelque peu maintenus dans le chat. Les médias sociaux, en revanche, suivent des règles différentes, car ils encouragent la viralité avec peu ou pas de surveillance. Ils sont donc devenus une bête incontrôlable et inarrêtable à ce stade, qui ne fait que propager la désinformation à un rythme alarmant. Une analyse récente a estimé que 20% du contenu diffusé par TikTok, une plateforme qui compte plus de 2 milliards d'utilisateurs, contient de la désinformation. Et cela est dû au fait que ces entreprises opèrent dans l'écosystème de l'économie de l'attention, où tout est permis tant qu'il y a des yeux qui regardent. Les émotions exacerbées, les récits tordus et les prises de position à chaud sont tout à fait légitimes lorsque l'objectif est de faire défiler les gens, et non d'informer. Une nouvelle étude a révélé que les systèmes de récompense des plateformes de médias sociaux encouragent par inadvertance les utilisateurs à diffuser de fausses informations. Mais le fait est qu'il ne s'agit pas seulement d'un algorithme malveillant qui nous nourrit intentionnellement de fausses nouvelles. Il s'agit simplement de répondre aux gens. Ce que les gens regardent, aiment ou republient est ce qui gagne en popularité. Et il s'avère que les gens ne sont pas non plus une source fiable de vérité. La raison pour laquelle ce sont spécifiquement les fausses nouvelles qui prennent le dessus est que les gens sont plus susceptibles de partager des informations lorsqu'elles correspondent à leur identité personnelle ou à leurs normes sociales, mais aussi lorsqu'elles suscitent de fortes émotions. Ce n'est pas un bon test décisif pour savoir si quelque chose est réel ou non. Mais d'un autre côté, ce n'est pas nécessairement la faute des utilisateurs. Ils sont simplement induits en erreur parce que les gens ne prennent généralement pas le temps de vérifier si quelque chose est une fausse nouvelle. Ce qui se passe, c'est que les gens ont envie de réponses et ils vont souvent chercher n'importe où sur Internet pour obtenir ces réponses, qu'elles soient exactes ou non, puis les partager. Les gens veulent de l'exactitude et avoir raison. Personne ne veut se sentir comme un menteur ou être étiqueté comme le garçon qui crie au loup. Mais ce n'est pas parce que nous voulons croire que quelque chose est vrai que c'est forcément le cas.
Gardez à l'esprit que les médias sociaux n'ont jamais été aussi mauvais. Toutes les plateformes, y compris celles-ci, déclassent les sources d'informations fiables, ce qui rend plus difficile l'obtention d'informations exactes et vérifiées. Cela n'arrive pas seulement aux personnes que vous détestez, qui sont du mauvais côté de l'histoire et qui sont clairement mal informées. Cela vous arrive aussi. Vous n'avez pas déchiffré comme par magie le code d'Internet pour que vous receviez toutes les informations vraies et correctes. Écoutez, il y a de fortes chances que vous ayez cru ou partagé de fausses informations, et cela ne signifie pas que vous êtes une mauvaise personne. Et les médias sociaux sont comme un cocktail de faits utiles et de mensonges purs et simples. C'est à la fois une décharge et un trésor.
Et c'est un problème auquel nous sommes confrontés sur les médias sociaux depuis longtemps maintenant. Mais la situation n'a fait qu'empirer à mesure que le volume de faux contenus augmente de façon exponentielle, en particulier avec l'ajout de l'IA slob et des deepfakes, ce qui rend impossible pour la plupart des citoyens de distinguer de manière fiable le vrai du faux. La désinformation continue donc de prospérer. Ce qui m'inquiète le plus avec l'IA sur les médias sociaux, c'est qu'elle peut circuler sans être détectée et se nourrir d'elle-même. Plus le contenu généré par l'IA est présent, plus il est recyclé comme source, créant cette boucle sans fin d'hallucinations et de désinformation. Car si quelqu'un écrit un article en utilisant une source d'IA et que cette dernière a déjà extrait de fausses informations, le prochain système d'IA pourrait considérer cet article comme fiable, amplifiant encore plus l'illusion. Nous en sommes donc arrivés à un point où nous avons plus accès à la connaissance que jamais auparavant. Mais en même temps, nous avons de moins en moins de certitude quant aux réalités du monde. Comme on l'a constaté, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que nous étions dans une phase d'infomique, ce qui signifie que la désinformation nuisible se propage désormais comme une maladie infectieuse. Mais la hiérarchisation du contenu malgré sa validité ne représente que la moitié du combat. L'autre aspect de la situation est que nous avons désormais affaire à des chambres d'écho créées à mesure qu'Internet est devenu de plus en plus personnalisé pour chaque utilisateur individuel. À l'ère moderne, plutôt que de s'informer auprès d'une source statique, comme le journal par exemple, nous obtenons des informations parfaitement organisées pour nous sur un flux en constante évolution qui évolue au fur et à mesure que nos intérêts et nos comportements changent. Par conséquent, nous nous retrouvons à nous replier sur nos propres petits quartiers sur Internet, où nos utilisateurs renforcent nos points de vue et nos opinions.
Ce que peu de gens savent à mon sujet, c'est que j'étais contre les huiles de graines. J'étais plutôt carnivore. Je suis allé à l'école pour étudier la nutrition afin de pouvoir prouver à tout le monde à quel point le système est erroné et à quel point la recherche est mauvaise. Je suis littéralement allé à l'école pour pouvoir confirmer mes convictions. J'ai fini par obtenir une licence en nutrition alimentaire et une maîtrise en diététique. Et je suis éligible pour devenir diététicienne. Et vous voulez savoir ce que j'ai compris ? J'avais tort. Beaucoup de gens diront, Oh, eh bien, vous venez d'être endoctriné. Vous avez passé des années dans ce camp où ils vous ont appris tout ce qui est faux. Non, j'ai juste été exposé à suffisamment d'informations pour réaliser que je vivais dans un tunnel d'écho qui essayait de me convaincre par la propagande de croire quelque chose qui n'était pas vrai.
L'un des problèmes avec les chambres d'écho, c'est que si vous ne savez pas que vous êtes dans l'une d'elles, vous ne savez pas quelles informations vous manquez, ce qui est vrai ou ce dont vous n'avez que la moitié de l'histoire. Les médias sociaux limitent donc notre exposition à des points de vue divers et renforcent un récit déjà établi. Et c'est la paranoïa que j'ai en ligne. Je me demande toujours si tout le monde est du même côté d'Internet que moi ou si je suis le seul ici à voir ça. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne réalisent pas que le fil d'actualité de chacun est différent ou bien ils ferment les yeux et continuent de consommer du contenu qui correspond déjà à leurs croyances. Dans ce nouveau paysage, nous faisons tout partie d'audiences fragmentées, chacun consommant une version de la réalité qui correspond parfaitement à nos propres idées préconçues. C'est comme un buffet où l'on ne choisit que les plats que l'on connaît et que l'on aime déjà, ignorant tout ce qui met nos papilles gustatives au défi. Alors que nous sommes de plus en plus nombreux à nous installer dans des espaces de contenu fabriqués, la désinformation continuera de se développer pour devenir une crise mondiale affectant la justice, la santé, la politique, l'économie et notre compréhension de la science. Pendant ce temps, chaque quartier est rempli de milliers de voix qui crient, dont aucune ne peut réellement s'entendre. Voici le problème avec toutes ces informations que nous absorbons en permanence, elles ne sont généralement pas très positives. Bien que je sois évidemment un grand partisan de rester informé de tout ce qui se passe dans le monde, nous avons atteint un point où les médias sociaux nous abreuvent de tellement de nouvelles négatives que cela commence à nous nuire. Car en plus de notre cerveau qui n'est pas câblé pour absorber un téraoctet d'informations chaque jour, nous ne sommes certainement pas non plus faits pour porter le poids des problèmes du monde sur nos épaules. Sur les 1100 personnes interrogées dans le cadre d'une étude, 16,5% étaient tellement immergées dans l'actualité que cela dominait leurs pensées éveillées, perturbant leur concentration sur l'école et le travail, et limitant le temps qu'elles passaient avec leur famille et leurs amis. Comment gérez-vous le fait que derrière chaque bonne chose de la vie en ce moment, chaque étape franchie, chaque grande chose, il y a comme un nuage menaçant du fascisme? Comme je l'ai déjà mentionné, le contenu qui suscite de fortes réactions est ce qui attire l'attention de nos algorithmes. Et la plupart du temps, les émotions fortes sont soit la tristesse, soit la colère. Ce déluge incessant d'informations est ce qui fait du mal aux gens en maintenant notre corps en état d'alerte maximale. Cela conduit à souffrir d'une surcharge de saturation médiatique. Des termes similaires sont apparus récemment, notamment le doomcrawling, l'anxiété des gros titres et le trouble du stress lié aux gros titres. Bien que ces termes soient plus récents, la pression psychologique liée au fait de vivre et d'absorber de mauvaises nouvelles ne se limite en aucun cas à ces dernières années. Le rythme soutenu des gros titres et des commentaires sur les médias sociaux n'a cessé de se faire sentir. Une pandémie en cours, l'injustice raciale, le changement climatique, la controverse électorale, la masse, et la liste s'allonge encore. Et en 2025 en particulier, il semble que nous assistions à des tragédies en temps réel sur nos écrans presque tous les jours.
Charlie Kirk est mort aujourd'hui grâce à des pensées et des prières. Des pensées et des prières. Et demain, lorsque nous nous réveillerons tous, il y aura une autre école de masse. Des pensées et des prières, des pensées et des prières. Et pareil pour le lendemain. Des pensées et des prières, des pensées et des prières. Et le lendemain, et le lendemain. Et si vous êtes scandalisé par la nonchalance avec laquelle j'en parle, vous devriez l'être, car c'est fou à quel point nous sommes insensibles aux gombes. Alors, tout le monde, faites vos vidéos et trouvez vos points de discussion. Je vous retrouve demain, à la même heure pour les pensées et les prières.
Mais le truc, c'est que même si on ne veut pas se laisser submerger par les mauvaises nouvelles, il est difficile de détourner le regard du chaos. Alors on continue à consommer. Comme le dit ce journaliste, je continue à regarder longtemps après la fin des violences, quand les présentateurs se répètent et qu'aucune nouvelle image n'apparaît. Les mêmes infos, les mêmes clips, les mêmes analyses toute la journée. Quand j'ai éteint la télévision, j'étais triste et stressée. Mais j'avais aussi mal à la tête et tout mon corps me faisait mal. J'étais épuisée d'être assise sur le canapé à regarder les infos. Nous ne sommes pas confrontés à des mauvaises nouvelles ponctuelles, mais plutôt à un flot continu de négativité qui peut dominer ce que nous voyons en ligne. Cela donne l'impression que c'est la seule chose qui arrive au monde, surtout si l'on tient compte de nos chambres d'écho algorithmiques. Mais les mauvaises nouvelles sont partout, même dans des endroits où on ne s'y attendrait pas. Comme notre invité de retour, l'application Météo-Média qui a pensé aujourd'hui que ce serait une bonne idée de me dire qu'il y avait une maladie du genre insecte qui s'est propagée alors que j'essayais juste de savoir si je devais porter un pull aujourd'hui. Pas cool, mais entre les diffusions en direct 24h, 24 et 7J7 et les algorithmes des médias sociaux qui donnent la priorité au contenu extrême, il n'est pas étonnant que les gens se sentent plus anxieux et dépassés que jamais. Il ne s'agit pas seulement de se sentir triste ou frustré sur le moment. Cela peut créer un sentiment de stress permanent, presque comme un bruit de fond ou ce que nous appelons un facteur de stress ambiant qui ne disparaît jamais vraiment. Le cycle de l'actualité d'aujourd'hui donne souvent l'impression que les mauvaises nouvelles sont incessantes, ce qui peut contribuer à un stress chronique, où les gens ont l'impression de se préparer en permanence à la prochaine crise. La différence ici, c'est qu'avant, il fallait chercher ce genre d'informations sur un incident dans les reportages télévisés ou les articles imprimés. Mais maintenant, avec les médias sociaux, il est difficile, voire impossible, d'éviter ce genre d'image. Nous venons de le voir de la pire des manières avec l'assassinat de Charlie Kirk, lorsque les informations sur la situation nous ont bombardés, que nous le voulions ou non. Mais le plus tragique, c'est que de nombreuses personnes ont pu voir les images explicites de l'incident sans leur consentement. Ce n'est qu'en 2025 que l'on a pu se connecter innocemment à Instagram et voir apparaître une vidéo 4 Kelvin d'une image aussi horrible. Beaucoup ont déclaré qu'ils n'avaient même pas reçu l'avertissement concernant le contenu sensible ou qu'ils y avaient été exposés d'une autre manière inévitable, comme un cadeau. Le week-end, ma fille de 7 ans, alors qu'elle conduisait en voiture, s'est tournée vers moi et m'a demandé si j'avais vu la vidéo sur YouTube du type en train de se faire tirer dessus. Et je lui ai dit, je l'ai vu, et toi ? Et elle m'a répondu, ouais, un tel me l'a montré. Le fait est que ce n'est pas quelque chose que nous devrions voir comme une partie intégrante de notre vie quotidienne. Ce sont des images traumatisantes que notre cerveau n'est pas censé traiter. Et c'est dingue que n'importe qui, même les enfants, puisse tomber dessus sur le même site qui nous propose des défis de danse et des tenues du jour.
Je le dis du fond du cœur, en toute sincérité. On n'aurait jamais dû voir quelque chose comme ça de toute sa vie. On n'aurait jamais dû voir quelque chose comme ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On n'aurait jamais dû voir quelque chose comme ça de toute sa vie. Et voilà, c'est sur les réseaux sociaux et on fait comme si c'était normal.
Mais dans l'ensemble, c'est quelque chose que je connais mieux que je ne devrais. Il s'avère que je m'intéresse beaucoup aux complexités et aux difficultés de la vie moderne. Et cela peut souvent me laisser un sentiment d'effroi et de malheur pour le monde. Et c'est là que je sais que je dois prendre du recul et aller toucher un peu l'herbe. D'où ma création de produits dérivés bien informés et effrayés. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut se protéger complètement des horreurs du monde. Il y a une limite. Il suffit de connaître nos limites et de nous protéger d'un effondrement mental total. Passons maintenant au côté le plus sombre et le plus profond des médias sociaux, à savoir les sections de commentaires. Les sections de commentaires ont pris une mauvaise tournure et font désormais partie des recoins les plus toxiques d'Internet. On entend souvent de grandes célébrités et des créateurs dire qu'ils ne lisent pas leurs commentaires parce que ce n'est pas sain pour eux.
Rien de bon n'est jamais sorti de la lecture des commentaires.
C'est drôle, ce n'est tout simplement pas sain mentalement.
S'il est vrai qu'il est légitime de ne pas pouvoir faire face à une telle ampleur de critiques potentielles, c'est aussi parce que ces dernières années, les commentaires sont devenus très volatiles. Mais ils n'ont pas toujours été comme ça. Et je me souviens qu'au début de YouTube, c'était simplement un endroit où les communautés pouvaient interagir, parler avec les créateurs ou simplement discuter entre eux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de commentaires haineux, mais la plupart du temps, les sections de commentaires étaient quelque chose qui ajoutait de la valeur à la vidéo que vous regardiez. Maintenant, c'est vraiment une question de chance, que vous ayez de bonnes ou de mauvaises ondes. J'ai l'impression que tout l'intérêt de poster sur les réseaux sociaux, c'est que c'est censé être amusant. Mais il n'y a plus de plaisir. Ce n'est pas parce que les influenceurs ont tout gâché, c'est parce que le public a tout gâché. Et si vous vous tournez vers cela pour un exutoire créatif, comme si vous étiez un artiste qui publiait son art, vous ne devriez pas avoir à vous préparer comme un gladiateur qui entre dans l'arène parce que vous partagez quelque chose d'important pour vous que vous aimez et que vous essayez juste de vous amuser et de prendre du plaisir. Il est 4h du matin. Je suis debout depuis 2h du matin à cause de palpitations cardiaques à cause de certains commentaires dégoûtants et méchants. Parce que quand vous êtes constamment agacé par des gens qui ne se soucient pas vraiment de vous, c'est juste exaspérant et cela vous enlève la joie et le plaisir de tout ça, et vous donne envie de vous amuser à nouveau. L'une des principales raisons à cela est l'essor des fils d'actualité pour vous, car au lieu de communautés se réunissant pour regarder un créateur suivi, vous verrez des personnes aléatoires de tous les coins d'Internet venir commenter et souvent ne pas se retenir. C'est aussi la raison pour laquelle vous voyez souvent plus de sections de commentaires toxiques sur TikTok, Instagram, Twitter et YouTube plutôt que sur YouTube au format long, car il s'agit toujours d'un espace davantage axé sur la communauté. Mais cela ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas devenir folles ici aussi. En réfléchissant à ce qui est arrivé aux sections de commentaires, je pense que plusieurs forces sont en jeu. D'une part, nous sommes confrontés à un manque total de nuances dans la culture d'aujourd'hui. Et donc si quelqu'un essaie de faire des affirmations qui ne sont ni noires ni blanches, il est sûr d'être interpellé avec une forte offense. La nuance est un don qui nous permet de contrôler nos propres perspectives et pensées. Un monde où tout le monde est d'accord sur tout, tout le temps, n'est pas un monde dans lequel nous voulons vivre. Cependant, de plus en plus, même un léger désaccord sur une formulation ou une action, sur les likes et les dislikes, devient soit tu es entièrement avec moi, soit tu es contre moi. Je dois lancer une attaque offensive et prier pour ta mort rapide et tragique. Vous savez à quel point les sections de commentaires sur TikTok sont les endroits les plus horribles, car les gens sont tellement négatifs et ils veulent juste avoir raison et ils veulent que les autres aient tort tout le temps. Je trouve cela très intéressant, car les gens se sentent autorisés à cracher autant de négativité en réaction à une vidéo d'une minute, de 15 secondes ou de 3 minutes où l'on ne voit presque rien sur cette personne, mais les gens veulent désespérément attaquer les gens parce qu'ils veulent avoir raison plutôt que quelqu'un d'autre. C'est juste une façon de se dire « je suis meilleur que toi parce que tu as fait ça et que ce n'est pas bien » ou « je ne suis pas d'accord avec ça ». C'est comme si on ne pouvait plus avoir d'opinion sans en être sûr à 100%, sinon on serait déchiré. Alors, bonne chance si jamais vous essayez de trouver un terrain d'entente dans le monde divisé d'aujourd'hui. Et oui, c'est ce que j'essaie de faire et c'est très difficile. Mais le monde des médias sociaux semble ne pas comprendre que beaucoup de choses sont compliquées. Il faut choisir un camp. En passant, je tiens à dire qu'il y a des nuances là-dedans, car il y a en fait beaucoup de commentateurs adorables, mais ils sont souvent noyés par les extrémistes. Et tragiquement, ce manque de nuances est ce qui anime les récits collectifs de nos jours et les zones grises s'estompent car elles ne sont plus acceptées par le grand public. Cela conduit à l'autre acteur dans tout cela, la composition de l'opinion collective. La nature des sections de commentaires, avec leur manque de nuances mélangées au système de classement par le biais des likes, signifie qu'elles sont devenues une sorte d'arène auto-renforcée avec une opinion pour les gouverner toutes. Ce phénomène communément appelé effet d'entraînement se produit lorsqu'une opinion forte gagne du terrain et que les gens l'adoptent, pas nécessairement parce qu'ils y croient ou qu'ils sont d'accord avec elle, mais simplement parce que d'autres le font. Les gens en général veulent s'intégrer au consensus perçu, ce qui signifie que même s'ils sont généralement en désaccord avec l'état d'esprit du groupe, ils le rejoindront parce que les préjugés du groupe prennent le dessus. Ainsi, à mesure que de plus en plus de personnes voient un point de vue particulier s'imposer, les mentions « j'aime » s'accumulent et des commentaires similaires suivent, ce qui entraîne un effet boule de neige. Et lorsque l'on ajoute à cela la soupe toxique de l'algorithme qui récompense les prises de position passionnées et extrêmes, ce qui suscite souvent plus de réponses, l'algorithme les pousse encore plus haut. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons avec des sections de commentaires qui semblent bien loin de ce que le créateur original essayait de faire passer.
J'ai mis en ligne une vidéo sur mon TikTok pour parler des autobronzants et j'ai fait une vidéo où j'en applique les 7 sur ma joue et la vidéo a explosé. Je ne sais pas comment c'est arrivé, j'ai été très chanceux de l'avoir fait. Mais les commentaires des gens pensaient que j'utilisais du fond de teint et de l'anti-cerne alors que je disais de la poudre bronzante, et ils m'ont reproché de ne pas avoir proposé une gamme de fond de teint suffisamment inclusive. Et beaucoup de mes commentaires étaient littéralement du genre « Je n'ai pas l'impression que cette teinte est assez claire et qu'elle ne m'ira jamais. » Et je me suis dit que c'était la poudre bronzante la plus claire que j'ai jamais vue de toute ma vie, au fait. Et donc je me suis dit « De quoi tu parles ?» Et puis j'ai réalisé que tout le monde dans les commentaires pensait que c'était du fond de teint. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe vraiment ?»
Une opinion publique élogieuse peut façonner l'opinion publique réelle. Même les mentions « j'aime » sur les réseaux sociaux peuvent avoir un impact sur l'opinion publique. Une étude de 2019 a révélé, par exemple, qu'un plus grand nombre de mentions « j'aime » sur Twitter ou Facebook avaient un impact sur l'opinion publique sur le sujet partagé. Cela se produit parce que les mentions « j'aime » servent de signal pour le consensus sociétal. Les résultats de l'étude étaient également cohérents avec un phénomène appelé la spirale du silence. Les gens sont moins susceptibles de partager une opinion si l'on a le sentiment d'être en minorité. Cela peut créer une boucle de rétroaction silencieuse. Plus les gens aiment une publication, en partie parce que d'autres l'ont aimée, moins il est probable que les voix minoritaires s'expriment. Ainsi, même si nous voulons croire que nous pensons par nous-mêmes, la vérité est que la mentalité du « entendu » est une chose puissante qui peut fausser notre perception de la vérité. Bon, dernière réflexion. Deux choses à noter ici. Premièrement, la vérité est généralement là. Elle est juste plus difficile à trouver et parfois enfouie sous des couches de bruit et de distorsions sur Internet. Il est également important de souligner qu'il ne faut jamais faire confiance à son algorithme en tant que source fiable d'informations et qu'il faut rechercher les points de vue opposés pour mieux appréhender la réalité. Et nous vivons dans une nouvelle ère où nous n'avons pas le choix. Nous devons devenir plus perspicaces, plus critiques et plus impliqués dans nos informations. Il est également très important de se fixer des limites. Choisissez quelques endroits pour obtenir vos informations, puis arrêtez-vous là. Plus important encore, Je tiens à ajouter que nous devons prendre du temps loin de notre téléphone. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez regarder ma vidéo sur l'addiction aux écrans. Je donne des conseils pratiques qui m'ont beaucoup aidé. Mais tout cela peut sembler si horrible jusqu'à ce que vous réalisiez que vous pouvez simplement vous désintéresser un moment. Comme si vous vous déconnectiez. C'est du moins comme ça que je gère les choses. J'aime suivre mes actualités. Je fais mes recherches. Et j'aime faire ça. Mais j'ai besoin de temps pour des choses amusantes qui concernent aussi mon petit monde, vous savez. Donc, le conseil que je vous donne, je suppose, c'est de sortir, de profiter du temps d'automne, de passer du temps avec votre famille, de rester bien informé et de ne pas avoir peur, et de faire des pauses si nécessaire. Au revoir.
Quelqu'un d'autre a envie d'une bonne lobotomie glacée en ce moment? J'ai l'impression que ça calmerait les tensions, je ne sais pas. Quelqu'un veut y aller? Je suis sûr qu'ils ont une offre spéciale Happy Hour ou quelque chose comme ça.